Nous sommes en direct sur Radio Vassivière, sur le 92.3 à Ussel, Mémac, et aussi sur le... On n'est pas en direct, en fait. Hein.
Oui, et oui, sur le
88.6, la fréquence historique, côté Royer de Vassivière. Et on est avec deux futurs chroniqueurs du magazine. Bonjour Lilian, est-ce que tu vas bien?
Oui, je vais très bien.
Tu vas très bien, c'est un bon début. Bonjour Jade, est-ce que tu vas bien?
Oui, merci.
Lilian, qu'est-ce que tu vas nous amener sur les ondes?
Je serai plus du côté jeux vidéo ludique. Je tenterai de faire des chroniques pour présenter des jeux vidéo avec mes mots à moi, pour faire transmettre ma passion, tout ça, tout ça.
T'as découvert les jeux vidéo comment et à quel âge?
J'avais découvert les jeux vidéo, j'étais tout petit, je crois que j'avais 2-3 ans, un truc dans le genre.
Comment est-ce qu'on peut découvrir les jeux vidéo à 2-3 ans?
C'était avec... ma sœur à l'époque, c'était pour la Nintendo DS, donc moi j'ai découvert les jeux vidéo, ils étaient déjà bien avancés à l'époque. Du coup c'était avec la Nintendo DS, et ma sœur voulait absolument en avoir une, et du coup bah moi je l'ai suivie. Et j'ai essayé d'en avoir une et je me suis passionnée. Puis après j'ai commencé à m'intéresser aussi à la PlayStation 1 de mon père, et j'y ai découvert des jeux comme Crash Bandicoot, des trucs comme ça, en tout cas des jeux mythiques qui ont marqué les gens.
Quand tu parles de jeux mythiques, c'est quoi ton premier souvenir de jeu vidéo?
The Legend of Zelda.
Alors quelle version? Parce qu'il y en a eu un paquet de,
oui,
de versions de Legend.
La version Nintendo DS Phantom Hourglass. C'était une version dans laquelle on incarnait Link, comme d'habitude. Mais là, on était un petit peu dans le rôle d'un marin.
Tu peux nous présenter un peu ce personnage? Tu disais on incarne comme d'habitude.
Link, c'est un personnage qui est dans toute la série The Legend of Zelda. Contrairement à ce que certains peuvent penser, le personnage principal ne s'appelle pas Zelda. Zelda, c'est la princesse qu'il faut sauver dans pratiquement tous les jeux. et du coup on incarne Link, c'est un bonhomme vêtu de vert, il a un petit bonnet, il a une épée, enfin bref c'est un petit peu une sorte d'elfe. Il a été inspiré par Peter Pan à la base. Du coup c'est un héros qui doit sauver la princesse Zelda avec des quêtes plus ou moins différentes selon les jeux, et en général ça se passe sur des thèmes différents. Justement Phantom Hourglass, le premier jeu Zelda auquel j'ai joué, le premier jeu auquel je me suis réellement passionné. À l'époque, je comprenais pas trop non plus, parce que c'est quand même un jeu d'énigmes. Donc, j'avais beaucoup besoin de l'aide de ma sœur. Et du coup, dans ce jeu-là, la thématique, c'était tout ce qui était trésor, tout ce qui était marin, tout ça, tout ça.
On dit beaucoup que Zelda, ça a à l'époque révolutionné l'univers du jeu vidéo. Est-ce que t'as entendu parler de ça et qu'est-ce que t'en penses?
À l'époque, Zelda, c'est... Oui, ça a plutôt... Bon, au tout début, c'était un jeu un peu comme les autres. Mais il était scénarisé un petit peu différemment, il était un petit peu plus poussé. Même si c'était un jeu 2D qui n'avait pas forcément des graphismes impressionnants, ce jeu a marqué les gens. Au début, on ne savait pas forcément pourquoi, parce que le premier jeu était en anglais, il n'y avait aucune traduction disponible. La logique du début était... il n'y avait pas de logique. On rentrait dans une grotte, il y avait un monsieur qui nous disait « Prends une épée, ça a l'air dangereux dehors ». Au début, personne ne comprenait.
C'était ça, ouais.
Puis après, vu que les gens, ça les a rendus addictifs, vu qu'il y avait des belles énigmes, vu que les batailles entre les boss étaient intéressantes, et que tout simplement, enfin, l'histoire était là, elle n'était pas forcément logique parfois, mais enfin, c'est un petit peu compliqué à expliquer.
Jeu vidéo doit-il être forcément logique?
Non, il y a des jeux vidéo qui ne sont pas forcément logiques. Il faut regarder dans tout ce qui est japonais, ça peut faire peur parfois au niveau de la logique.
Bon, tu le disais, c'est Zelda, première version, un jeu 2D, rien à voir avec les dés, hein. C'est un jeu en deux dimensions.
Oui, oui, voilà, c'est ça, en deux dimensions, vu de haut, pixel.
Quand tu dis vu de haut, c'est un jeu prétentieux, c'est ça?
Non, en vue à la troisième personne, je veux dire, c'est-à-dire on voit la caméra du joueur est placée au-dessus. Donc par exemple, là on a vu sur le bonnet de Link, justement.
Tu le disais au début, c'est Jade, ta grande sœur, qui t'a initié au jeu vidéo. On parlait de ce jeu-là, The Legend of Zelda. Zelda, faut toujours sauver la princesse, comme tu le disais, dans tous les jeux vidéo et comme dans toutes les histoires en général. Jade, qu'est-ce que tu penses de toutes ces princesses à sauver, ces innombrables princesses à sauver dans les jeux vidéo?
Dans l'univers du jeu vidéo, ce qu'il faut principalement, c'est un but. Parce que quand on parle d'aventure, il va falloir qu'on trouve quelque chose qui va motiver le héros et le joueur à s'accrocher à l'histoire, et l'option la plus facile, et à l'époque à laquelle ça a commencé, donc Zelda, c'est 86. On était encore dans l'époque où les femmes étaient à sauver et étaient légèrement à sauver. Il y avait plus de préjugés comme ça. Mais c'est quand même quelque chose de mythique, la princesse qui est à sauver. Mais ces derniers temps, Nintendo s'est quand même amusé à inverser un petit peu les rôles avec certains jeux. Par exemple, Mario le plombier rouge qui, en temps normal, doit sauver la princesse Peach, s'est vu devoir se faire sauver par sa princesse sur un opus sur Nintendo DS. Et je pense que c'est quelque chose qui est principalement... La motivation principale et la plus facile à trouver, c'est celle d'une princesse en détresse.
Est-ce que c'est pas aussi parce que c'est beaucoup un public masculin qui fait du jeu vidéo qu'on a beaucoup de princesses à sauver ?
Ça, c'était quelque chose que l'on pouvait dire plus au début du jeu vidéo. Toutefois...
T'entends quoi par début du jeu vidéo ? Tu parles de quelle période ?
Les premières consoles de salon, donc par exemple la NES de Nintendo, les premières Mega Drive, etc. Et c'était une époque où on disait les jeux vidéo sont pour les garçons et à côté les filles sont en train de jouer. Mais les producteurs ont su saisir quand même cette partie de joueuses potentielles. Tout au début, c'était des jeux tout peints de rose bonbons, des jeux de cuisine, etc. Mais les préjugés ont au fur et à mesure du temps été vaincus. Je pense notamment à Pokémon qui a été un des premiers jeux à intégrer... plutôt qu'un joueur, avoir le choix du personnage entre une fille et un garçon. Et en fait, c'est avec le temps, le jeu devient mixte, en fait. Ce n'est plus uniquement destiné aux filles ou aux garçons. Seul le fut face à un temps, mais rien n'empêche à une fille de vouloir sauver Peach en incarnant Mario.
Et est-ce que Lara Croft n'a pas amené aussi quelque chose d'un peu différent avec les Tomb Raider ? Est-ce que ce n'est pas la première héroïne, entre guillemets, des jeux vidéo ?
Les jeux Tomb Raider ont été un grand passage dans l'univers du jeu vidéo. Toutefois, je pense que la création de ce personnage qui a énormément de formes, qui a des bruitages certains pendant qu'on y joue, était principalement à l'origine fait pour aguicher les hommes, mais plutôt qu'encourager les filles à venir jouer.
C'est un coup de com', hein.
Oui, mais ça a permis à beaucoup de filles de montrer qu'elles jouent aux jeux vidéo par la pratique aussi du cosplay, donc de pouvoir se déguiser en un personnage, et ça permettait de changer la place de la femme, dans le sens où les filles n'avaient plus à se déguiser en princesse, mais pouvaient être aussi la protagoniste du jeu, qui peut être aussi violente, armée d'armes, etc.
Lilian va nous parler de jeux vidéo sur Radio Vassivière. Toi, Jade, tu vas nous parler d'autre chose. C'est quoi l'univers que tu vas amener sur les ondes de Radio Vassivière ?
Alors, il y a plusieurs univers différents, mais principalement deux univers issus de mes passions. Donc, le steampunk, à ne pas confondre avec steelpunk. Le steampunk qui a commencé par être un courant littéraire. Et ensuite, les mangas et la musique un petit peu méconnu des jeunes d'aujourd'hui, sauf par certaines communautés, donc principalement de l'oriental, donc J-pop, J-rock et pop coréenne, etc. Et
steampunk, avant de parler de la musique pop, de la J-pop, steampunk, on peut peut-être expliquer que steam, ça veut dire vapeur,
oui,
en anglais. Et tu peux nous expliquer un peu plus en détail ce qu'est cet univers ?
Oui, le steampunk, c'est du rétro-futuriste. Donc, les fans du steampunk, on nous appelle les vaporistes, parce que steam signifie en vapeur. Le steampunk, on part de l'époque victorienne, des années 1900, voire avant, principalement en Angleterre, où l'on est encore au milieu des machines à vapeur, des trains, et sans encore avoir d'informatique.
C'est le Londres de Jack l'Éventreur.
C'est cela. Et c'est un petit peu... En France, quand on veut dessiner le steampunk, on commence d'abord par désigner les références du proto-steampunk. Donc, ce qui n'en était pas à l'époque. Par exemple, on parle des Jules Verne. Dans beaucoup d'ouvrages de Jules Verne, il imagine des machines qui n'existaient pas à leur époque et qui n'ont parfois jamais existé. On appelle ça du proto-steampunk parce que pour lui, c'était seulement de l'anticipation. Le terme steampunk n'existait pas encore. Et ces machines qu'il créait et qu'il imaginait, les gens d'aujourd'hui, quand ils les imaginent, donc c'est du rétro-futuriste, on repart dans le passé pour imaginer un futur qui n'a pas existé, des aventures futuresco alternatives. Et en fait, cet univers se base surtout autour de ce genre de machines, et la plupart du temps, ces aventures commencent en utopie, et à l'inverse, se terminent en dystopie et d'un personnage qui veut tout changer.
Alors, tu peux peut-être te rappeler utopie, dystopie, hein ?
Une utopie, c'est le principe d'avoir une société parfaite, c'est quelque chose d'impossible.
On peut rappeler que utopie, ça veut dire sans lieu, enfin qui n'a pas de lieu.
Oui, c'est qui n'existe nulle part.
Et la dystopie, ça ?
C'est l'inverse d'une utopie, c'est quand on découvre les brèches d'une société et qui en fait tourne à l'envers.
Donc le steampunk, c'est plutôt quelque chose de pessimiste ?
Pas toujours. Il arrive que aujourd'hui, en fait, en ressassant toutes ces aventures que l'on aurait pu avoir, on imagine un avenir meilleur qu'on aurait pu avoir sans informatique. Donc l'évolution des dirigeables qui ont disparu à cause de la Première Guerre mondiale, mais souvent pour créer du steampunk, pour imaginer qu'on soit revenu jusqu'à notre époque, les gens imaginent qu'on n'aurait pas eu les deux guerres mondiales. Donc les efforts faits au niveau de l'informatique pour la communication n'ont pas été faits, on est encore au télégramme et à toutes ces technologies. Et en fait, on imagine plus un avenir qui serait différent du nôtre, ça permet de s'évader. Nous, notre avenir en tant que personnes réalistes, ce serait plus qu'on soit dans une société dominée par la technologie informatique, donc des choses plutôt froides. Alors que quand on imagine toutes ces machines, toutes ces inventions, on pense à plus de création encore et encore. Alors que quand on passe à l'informatique, on se restreint encore à quelque chose d'autre.
Enfin, et l'informatique et l'électronique a tendance à se réduire de plus en plus, à disparaître, on le voit quasiment plus, alors que dans le steampunk, c'est des grosses machines avec des gros rouages, on les voit encore, ça donne l'impression de maîtriser cet environnement. On sent que tu es vraiment passionné par cet univers du steampunk, comment t'y es arrivé ?
Tout au début, je ne m'y connaissais pas du tout, je suis tombée par hasard sur quelques communautés sur internet qui m'ont guidée pour mieux m'y connaître. En fait, la chose que j'ai vue en première qui était steampunk, c'était les tenues. Parce qu'en partant du victorien, donc les magnifiques robes par exemple des dames, et pour les hommes élégants et avec des hautes formes, on les réinvente de manière plus fonctionnelle avec des rouages et autres. Même imaginer une femme avec un corset et pourtant un pantalon, c'est quelque chose qui à l'époque n'aurait pas pu être concevable et qu'on peut recréer maintenant. Et c'est là-dessus que je suis tombée la première fois que j'ai vu le steampunk. Et je m'y suis intéressée d'autant plus qu'après j'ai découvert la culture musicale du steampunk, donc avec The Clockwork Quartet.
Le sujet de ta première chronique à venir.
Exact.
Tu peux parler un peu de la J-pop, la pop japonaise et coréenne. Pourquoi est-ce que tu n'écoutes pas Rihanna comme tout le monde ?
La différence entre la musique qu'on a en Occident et en Amérique, c'est que la J-pop, donc Japan pop, et la K-pop, donc Korean pop, avec le reste des musiques, c'est qu'on se retrouve dans un univers souvent plus coloré que la musique occidentale, et on a plus l'impression d'être plus libre, parce que le principe c'est d'inventer, de créer encore et encore, et on se retrouvera plus dans des choses qui parfois n'ont pas de sens. Je pense notamment à l'artiste Carrie Pamiu, qui dans ses clips montre des choses remplies de couleurs, hein, et parfois illogiques. En Amérique, il y a aussi beaucoup d'artistes qui s'en inspirent et qui donnent des choses colorées comme celle-ci, Mélanie Martinez par exemple, qui est sombre, mais qui est toujours dans ce style un petit peu excentrique. Et donc la Japan pop vient du Japon par définition, mais permet de ressortir un petit peu leur culture et eux-mêmes de développer leur culture sous un autre angle de vue.
Ouais, tu parles beaucoup de couleurs dans la J-pop et la
K-pop.
Ça, c'est pour le côté clip, parce que j'imagine que musicalement, c'est difficile de voir de la couleur.
Oui.
Et ça ressemble à quoi, la musique, la pop japonaise ? Parce que comme son nom l'indique, à la base, la musique populaire japonaise et maintenant coréenne était très influencée par les musiques occidentales et par les groupes occidentaux. Est-ce qu'ils ont trouvé une identité qui leur est propre maintenant ? Ou est-ce que c'est toujours quelque part une sorte de relecture de ce qui se fait chez nous, mais de manière plus colorée ?
C'est pas vraiment une relecture, ce serait plus un pastiche. Ce serait plus un hommage parce que...
Oui, c'est ça, un pastiche dans le sens oui. Musique classique, c'est-à-dire c'est pas pour se moquer.
Voilà, c'est un hommage, mais tous les artistes de K-pop ne s'en inspirent pas, mais cela ressemble vraiment, par exemple, à la pop que l'on avait dans les années 80 en France. Toutefois, c'est réinventé. Selon les artistes, on a des sujets plus ou moins sérieux. On est capable de dire avec un grand sourire que le monde va mal, mais c'est quand même réinventé par les Japonais qui... Ils ont des sujets qui reviennent pas souvent dans les musiques francophones et américaines.
Par exemple ?
Comment dire ? Le harcèlement scolaire qui est par un artiste qui s'appelle Neru, qui est sur Internet, influent sur Internet, ou d'autres qui parleront plus... parleront des choses toutes simples de la vie, en fait.
C'est quoi le harcèlement scolaire ?
Le harcèlement scolaire par rapport au Japon, par rapport au fait que les élèves soient... Comment dire ? Contrairement à en France, où on aura un système qui va tenter de nous tirer vers le haut en nous encourageant, au Japon, il faut être bon et on doit encore nous rendre meilleurs. Et il en va de même avec la dose de travail qu'on leur impose. Si jamais un élève est victime de brimades, rarement on viendra l'aider. En France, on met de plus en plus des systèmes pour que les élèves arrêtent de se faire harceler tous les jours à l'école, alors qu'au Japon, si un élève est mauvais en cours, ses professeurs, malgré qu'ils ne soient pas sans cœur, les professeurs dans la culture ne vont pas aider l'élève toujours, mais presque les stigmatiser un petit peu plus.
Pour quelqu'un qui ne s'y connaîtrait pas du tout en J-pop et en K-pop, est-ce que tu aurais un artiste à conseiller pour commencer, à la fois un artiste coréen et japonais ?
Alors, pour la K-pop, principalement, il y a des boys bands.
Est-ce que c'est des vrais musiciens ? Est-ce que c'est de la vraie musique ?
Oui. Oui, mais après, il faut arriver à s'y faire, en fait. C'est comme tout autre langage. Quand on écoute de l'anglais, on est habitué à l'oreille. Alors que le coréen et le japonais, c'est pas forcément des langages qu'on a l'habitude d'écouter.
Je dis ça parce que boys band, ça sonne de manière un peu péjorative à l'oreille de certaines personnes.
Oui, non. Là, c'est pas péjoratif. Ça ressemble un petit peu au groupe de boys band occidentaux, mais toujours avec des garçons avec des jolis minois, etc. Mais c'est quand même audible. Je dis pas que les occidentaux sont pas audibles, loin de là. Mais pour la K-pop, ce serait plus les BTS.
BTS.
Voilà. Et pour ce qui est de la J-pop, ce qui est difficile, c'est qu'il y a des groupes vraiment extrêmes dans lesquels on n'est pas habitué, ou des artistes eux-mêmes, donc Kyari Pamyu Pamyu, et des groupes qui ressembleraient plus à des musiques occidentales comme Garnet Crow.
Comment on trouve ces disques ? Est-ce qu'ils sont distribués en France ?
Pour les disques distribués en France, c'est du Vocaloid de temps en temps, mais il faut que les artistes... les disques distribués en France de musique japonaise, souvent, ce seront soit des musiques de générique d'animé, enfin de manga. Après, sinon, ce qu'on peut avoir, ce sont des Vocaloid, donc ce sont des voix qui sont synthétiques, et il faut vraiment que l'artiste ait envie de le commercialiser en France, sinon il faut le commander par Internet, et ce sera difficile à trouver.
Jade, tu vas bientôt intégrer l'équipe de Radio Bassivière pour une chronique qui n'a pour le moment pas de nom. Dans cette chronique, tu vas nous parler du steampunk, de la J-pop, de la K-pop, des mangas, des webcomics, de la culture kawaii au Japon. On attend la première chronique avec impatience, peut-être réalisée ces prochains jours. Et Lilian, toi, tu vas aussi rejoindre l'équipe de Radio Bassivière, l'équipe de ses chroniqueurs, pour une chronique consacrée à l'univers des jeux vidéo. Merci à tous les deux d'être venus présenter vos deux projets.
Merci beaucoup à vous aussi.
Merci de nous avoir accueillis, surtout.
Et quant à nous, on se retrouve très bientôt sur les ondes de Radio Bassivière, 92.3, 88.6. Bye bye.